Le journal Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous. Les Martiniquais assignés à résidence et les touristes sommés de rentrer chez eux. Nouveau tour de vie sans Martinique qui ne s'en sort plus face au Covid. Confinement strict à partir de ce soir, fermeture des commerces, plus d'accès aux plages. Les vacanciers sur place s'interrogent sur leur retour. En métropole, pas de confinement mais le pass sanitaire, notamment à l'hôpital où les soignants jouent la carte de la pédagogie dans les premiers jours de son application. À la une également, quelques milliers de manifestants dans la rue hier soir à Athènes. Ils critiquent l'inaction du gouvernement face aux incendies qui frappent la Grèce et globalement face au réchauffement climatique, alors même que le GIEC tire à nouveau la sonnette d'alarme. C'est d'ailleurs le thème du grand entretien avec vous, Hélène, dans 20 minutes.
Oui, Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC, et Emma Aziza, hydrologue, seront nos invités. Pourquoi le réchauffement climatique s'est-il accéléré malgré les efforts? A-t-on atteint le point de rupture? Quelles solutions? Nous poserons toutes ces questions à nos invités, donc à 8h20. On attend aussi les vôtres, chers auditeurs. 01 45 24 7000.
Dans ce journal encore, d'où vient le Wi-Fi? Question aujourd'hui dans notre série sur les incontournables du quotidien. Et puis quand le musée s'invite dans les maisons de retraite, là aussi, grâce à la technologie.
France Inter.
1600 cas pour 100 000 habitants, 35 morts du Covid en une semaine seulement et des hôpitaux plus que saturés. La situation n'est plus tenable en Martinique. Alors hier soir, conférence de presse du préfet Stanislas Cazel et des consignes claires.
J'invite toutes les personnes qui sont ici pour situation de tourisme et qui sont vulnérables à quitter le territoire compte tenu de la situation sanitaire ici en Martinique. Depuis 15 jours, nous appliquons un confinement et un couvre-feu à 19h. La progression a ralenti, les premiers effets sont là, mais les courbes montent encore. À l'évidence, ces mesures n'ont pas suffi. Nous allons entrer dans une seconde phase de confinement. J'invite donc chacun des résidents du territoire à rester chez lui pendant les 3 semaines qui viennent.
Concrètement, dès ce soir et pour 3 semaines au moins, un confinement qui ressemble à celui du printemps 2020 en France. Déplacement limité dans un rayon d'1 km. Les commerces non essentiels doivent fermer. Les plages sont inaccessibles. Les hôtels et autres locations de vacances vont progressivement fermer. Vous l'avez entendu, le préfet demande aux touristes de partir. Des vacanciers dans le flou ce matin, comme ce Parisien joint par Boris Loumagne.
Bernard et toute sa famille sont désormais indésirables en Martinique. Ils viennent de l'apprendre, les touristes sont invités à rentrer au plus tôt en métropole. Alors Bernard est allé voir sur le site d'Air France.
Tous les avions sont complets, donc je ne vois pas comment on peut rentrer plus tôt. S'il y a de la place et qu'il y a des vols, on peut envisager effectivement de partir un peu plus tôt. Mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Le préfet de Martinique a contacté les compagnies aériennes. Elles sont mobilisées, dit-il, pour rapatrier au plus vite les touristes. Mais cela prendra du temps. Alors en attendant, il va falloir respecter les règles en vigueur, comme cette interdiction de se déplacer à plus d'1 km de son lieu de résidence. Une aberration pour Bernard.
1 km alors qu'on est en pleine campagne, je vois pas du tout le sens de cette décision. Je vais pas vous le dire officiellement là parce qu'on va quand même essayer de faire des marches, des balades. On va essayer de respecter à peu près, mais on sait que dans le coin on peut faire quelques balades et s'aérer quoi.
Bernard et sa famille, qui comme des centaines de touristes en Martinique, vont donc devoir prendre leur mal en patience en attendant de trouver un avion qui les ramènera vers la métropole.
Boris Loumagne, la situation en Martinique liée aussi au très faible taux de vaccination. À peine 30% de la population sur place a reçu une première injection contre 2/3 pour l'ensemble de la population française. N'attendez pas pour vous faire vacciner. Message hier soir à l'ensemble des Français du patron de Sanofi en France. En réponse aux sceptiques qui veulent attendre un vaccin français, les vaccins autorisés sont sûrs et efficaces, écrit sur les réseaux sociaux Olivier Bogilot. Du côté des chiffres de l'épidémie à l'hôpital, le nombre de malades continue de grimper, mais il augmente de moins en moins vite. En France, un peu moins de 1700 patients Covid sont en soins critiques, ce qui veut dire qu'un tiers des lits seulement sont occupés.
L'hôpital où le pass sanitaire est obligatoire depuis hier.
Pour les patients non urgents, même s'il y a des exceptions, et pour les visiteurs, une obligation que redoutaient les soignants par peur de tension. Alors cette semaine, le mot d'ordre, c'est la pédagogie, comme l'a constaté Anne Orenstein à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, près de Paris.
À l'entrée de l'hôpital, la plupart de ceux qui arrivent ont déjà dégainé leur QR code pour le faire valider par les vigiles de l'entrée.
Merci beaucoup.
Merci.
On a attendu que ce soit compliqué. C'est pour ça qu'on a demandé 2 agents en plus. la vérité, c'était bien passé, ils sont compréhensifs, ils sont très contents, ils sont gentils, voilà.
Matinée somme toute facile pour l'agent de sécurité signé Hamid, d'autant que pour l'instant, avec ou sans passe, tout le monde rentre. Sans discussion pour les urgences.
On a un petit souci avec le bras de ma fille.
Vous allez aux urgences pédiatriques ? Allez-y.
Ou les cas particuliers gérés en deuxième rideau par des médiateurs, des soignants volontaires.
Par exemple, ce matin, nous avons reçu un frère et une soeur qui venaient pour la chambre mortuaire. Là, on ne discute pas.
Joël Rossonin est cadre de santé en dermatologie.
On les laisse passer, mais ça n'empêche qu'on leur donne quand même une note d'information. C'est aussi une façon de pouvoir expliquer aux gens ce que nous vivons ici à l'hôpital tous les jours et faire comprendre le bien fondé de ce pass sanitaire.
En s'appuyant sur ses équipes, la directrice d'Ambroise Paré, Marion Bousquier, espère convaincre plutôt que contraindre.
Le mot d'ordre vraiment pour nous, c'était qu'on soit au démarrage dans la pédagogie, dans la souplesse, dans l'intelligence des situations. On a évidemment des situations spécifiques qui se présentent. On sait y répondre avec intelligence comme on a l'habitude de le faire à l'hôpital.
Et pour éviter au maximum de refuser des entrées, un pharmacien propose des tests antigéniques en 15 minutes à l'entrée même de l'hôpital.
Le reportage d'Anne Orenstein. Le Covid à l'étranger qui a perturbé les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils se sont déroulés à huis clos. Et ça inquiète déjà la Chine qui organise les Jeux d'hiver en février prochain. C'est dans 6 mois à peine. La Chine qui s'est barricadée depuis 1 an et demi mais qui est touchée en ce moment par le variant Delta, visiblement résistant à ses vaccins. Alors les organisateurs des Jeux de Pékin sont déjà dans le doute. Stéphane Pambrin.
Officiellement, tout va bien. Les différents sites olympiques sont prêts, les infrastructures terminées et le village des athlètes n'attend plus qu'eux. Reste une ombre au tableau, comment va s'organiser l'arrivée de milliers de sportifs, entraîneurs et journalistes? Le comité d'organisation est muet pour l'instant sur les détails de la procédure d'accueil. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Nous allons porter haut la flamme de l'Olympisme et ce seront des jeux à la fois sûrs et excitants.
Actuellement, les voyageurs en provenance de l'étranger doivent effectuer une première quarantaine de 3 semaines à leur arrivée à Pékin dans des centres spécialisés et une autre à domicile. 1 mois et demi d'isolement impensable pour les athlètes, sans compter que la Chine ne reconnaît que les vaccins chinois qui semblent en plus peu efficaces face au variant Delta. Autre inconnu, la présence du public. La Chine affirme que les stades seront pleins, mais certainement pas avec des touristes étrangers. Des dizaines de milliers de volontaires sont en train d'être sélectionnés, formés et vaccinés. Ils seront certainement mis à contribution dans les tribunes. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
France Inter, 8h07, le meurtrier présumé du père Olivier Maire a été interné d'office hier soir en psychiatrie.
L'état d'Emmanuel Abayi-Senga était incompatible avec une garde à vue selon les experts. Ce quadragénaire rwandais s'est présenté lui-même hier aux gendarmes, s'accusant du meurtre d'un prêtre supérieur de la congrégation religieuse des missionnaires montfortins à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, une communauté dans laquelle il vivait sous contrôle judiciaire, puisqu'il est le principal suspect dans l'incident de la cathédrale de Nantes il y a 1 an. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Vous êtes à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour France Inter où ce matin, le recueillement et le silence dominent.
Oui, un recueillement à la hauteur de la vie paroissiale très riche dans cette commune rurale où trône une somptueuse basilique, lieu de pèlerinage pour la communauté des Montfortins que menait le père Olivier Maire. Depuis hier, les prières sont encore plus nombreuses comme celle de Liliane.
J'ai toujours été formée par les pères Montfortins et d'autres pères Olivier, moi je l'ai connu, j'ai vécu 1 an en communauté avec lui. Il y a une tristesse intérieure, mais je reçois ça dans la paix, vous voyez, je suis en train de prier mon chapelet, donc je reçois ça et je suis dans la paix.
Elle rejette toute polémique, même si certains habitants ont exprimé leur colère. Hier, ils ont découvert que l'incendiaire de la cathédrale de Nantes était hébergé ici depuis fin mai. C'est avant tout une épreuve de foi, expliquait Stéban, 24 ans.
Je comprends tout à fait ces personnes qui sont dans la colère. Sans le Seigneur, moi je serais comme eux, avec de la rancune. Mais justement, si vous ouvrez l'évangile, vous verrez que Jésus nous dit de pardonner ses ennemis, que justice soit faite vraiment, mais miséricorde aussi.
L'accueillir était un devoir moral, ajoute au micro de France Bleu Loire-Océan Jean-Baptiste Bondelé, un des pères de la communauté.
On ne regrette pas d'avoir fait le bien à quelqu'un. Nous, c'était la charité. La charité, quand on l'a fait parce qu'on est convaincu. On l'a fait sans regret. Donc nous avons donné le maximum.
Les paroissiens doivent se retrouver dans un peu plus d'une heure pour la messe quotidienne et ce soir, une veillée en hommage au père Olivier est organisée.
Delphine Evenou avec Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. Merci à tous les deux.
La Kabylie à son tour, frappée par les incendies.
Bilan 4 morts et 3 blessés dans cette région située à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger, très boisée. Les feux sont enfin stabilisés dans le sud de l'Europe, à l'exception de celui de l'île d'Eubée en Grèce. Près de 2 semaines que le pays s'embrase. Et hier, quelques milliers de personnes sont venues à la nuit tombée crier leur colère contre le gouvernement grec. Sur place dans le cortège, l'envoyé spécial de France Inter, Julie Pietri.
De l'argent pour protéger la nature, de l'argent pour équiper les pompiers, pas pour la répression. C'est le gouvernement grec qui était dans le viseur des manifestants, son inefficacité dans la lutte contre le feu, son absence de prévention dans l'entretien des forêts. On a été très émus, sanglote Nathalie, venue avec sa fille de 2 ans. J'ai du mal à trouver mes mots, c'est si effrayant. J'espère que ce sera un tournant, dit-elle. À ses côtés, son mari précise que si leur fille est là, c'est pour lui montrer qu'on peut toujours essayer de changer les choses en mieux. En toile de fond de ce cortège, il y avait aussi la crainte face au réchauffement climatique et l'envie de faire pression sur les autorités, même si Saskia n'est pas très optimiste.
Les gouvernements, pour le moment, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas pris en sérieux le changement climatique. Ouais, c'est les priorités, c'est une question de priorité. D'acheter des avions pour éteindre des feux, construire un autre modèle économique, un autre modèle de croissance. La manifestation est une forme de se relier avec les autres, de savoir qu'on n'est pas seul, mais ils ne sont pas insuffisants.
Le sentiment d'abandon ici est immense. Quand le Premier ministre dit qu'il va reboiser, ça ne suffit pas, crient les manifestants, qui attendent un véritable changement de cap politique en matière environnementale.
Le reportage de Julie Pietri à Athènes. Le monde touché par les événements climatiques extrêmes qui se multiplient à cause du réchauffement de la planète. C'est l'alerte donnée par le GIEC hier dans le premier volet de son nouveau rapport. Emmanuel Macron appelle à un accord à la hauteur de l'urgence lors de la prochaine COP, la conférence de l'ONU sur le climat. Ambition partagée en France, semble-t-il, par tous les partis politiques. Mais comme toujours, c'est sur les solutions que les divergences se font, Laurence Perron.
À gauche, écologistes et insoumis sont sur des lignes proches. Rupture avec le système économique et social. Éric Coquerel, député LFI.
Il faut institutionnaliser une règle verte, une planification écologique. J'espère que ce sera ça le débat central de la prochaine présidentielle.
D'autres, comme Delphine Bateau, prônent une écologie intégrale qui englobe aussi la culture, nos modes de consommation, le rapport moral aux êtres vivants, quand communistes et socialistes n'ont pas encore tout résolu en interne, notamment la question du nucléaire. La majorité estime qu'elle avance à petits pas, certes, mais qu'elle avance. Erwan Balanant, rapporteur de la loi climat.
Rupture radicale pour qu'elle n'entraîne pas le chaos, pour qu'elle soit acceptée par la population. Si on écroule notre système du jour au lendemain, on sera en incapacité complète de faire cette transition.
Et qu'on ne dise pas que c'est la droite qui freine. Damien Abad, le patron des députés LR, s'est converti à ce qu'il appelle l'écomodernisme.
Ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi que nos entreprises, et y compris des fleurons industriels comme Total, comprennent que désormais, ce que l'on faisait auparavant, on ne peut plus le faire aujourd'hui.
Même au RN, l'urgence climatique est un sujet. Mais pour Hervé Juvin, l'aspirant ministre de l'écologie de Marine Le Pen, les solutions ne sont pas dans les grands symposiums mondialisés, plutôt dans un retour au localisme, une écologie de proximité bien encadrée par les frontières.
Laurence Perron du service politique de France Inter.
Si vous êtes en vacances, peut-être l'avez-vous déconnecté de votre téléphone pour être tranquille.
Le Wi-Fi, l'internet sans fil si vous préférez, eh bien c'est le sujet du deuxième épisode de notre série cette semaine. D'où viennent ces inventions devenues incontournables dans notre quotidien? Le Wi-Fi, ça date de la toute fin du XXe siècle, mais c'est inspiré, Antoine Gignot, des idées d'une célèbre pin-up des années 40.
Ce sont des ondes radio, comme celles de France Inter, mais plus rapides et plus sécurisées. Pour éviter les interférences et le piratage, au lieu d'utiliser une fréquence fixe, on découpe les données en petits paquets avant de les envoyer alternativement sur plusieurs fréquences. Le procédé date des années 40 et il est né dans le cerveau d'une superstar d'Hollywood. À l'époque, Eddie Lamar est sous contrat avec la MGM. Elle a fait une entrée fracassante dans le métier en portant à l'écran le premier orgasme de l'histoire du cinéma. Elle a quitté l'Allemagne et son mari marchand d'armes pour s'installer aux États-Unis et elle fréquente un compositeur de musique qui, pour l'une de ses pièces, vient de synchroniser 16 pianos mécaniques grâce aux ondes radio. Elle reprend le procédé et l'adapte au guidage des torpilles pour l'offrir à l'armée américaine. Et c'est sur cette base que John Sullivan, un scientifique australien, met au point, à la fin des années 90, un protocole d'échange de données à très haute vitesse. Le Wi-Fi ne rapporte donc rien à sa créatrice. Eddie Lamar meurt au début de l'année 2000 dans un quasi-anonymat, pickpocket et alcoolique.
Antoine Gignot, les incontournables de notre quotidien, toute cette semaine dans le journal de 8h sur Inter. Et voici d'ailleurs une autre belle invention qui a besoin du Wi-Fi pour fonctionner. Une borne tactile créée par l'entreprise française Arthur. Véritable musée virtuel à destination des personnes âgées qui vivent en EHPAD. Quelques 180 expositions sont disponibles, de quoi garder un contact avec avec la culture et parfois réveiller de beaux souvenirs. Reportage dans une résidence senior à Auxerre, en Bourgogne, qui vient juste d'installer cette borne, signée Cyril Ardou.
Je dirais que c'est un peintre impressionniste, mais Boudin peut-être.
Boudin.
Ah, c'était Claude Monet, pas de chance.
Claude Monet, Morisot, Degas, des dizaines d'artistes dont Geneviève Bailly parcourt les œuvres et elle ne boude pas son plaisir.
C'est vraiment un bel instrument de culture. J'ai quand même beaucoup de mal à marcher alors. Et je ne me vois pas vraiment aller dans un musée. Mon mari s'intéressait beaucoup à la peinture. Quand on avait l'occasion d'aller voir une exposition, on y allait, quoi.
Elle est la première résidente à prendre en main cette borne, quasiment autonome au bout de quelques minutes. Elle jongle d'un artiste à l'autre, sous l'œil ravi de la directrice de la résidence, Charlène Moreau.
C'est juste pour apporter un peu de culture et puis de la curiosité intellectuelle, tout simplement. Les personnes peuvent venir voir, ça m'intéresse de s'asseoir, de discuter le temps d'une photo. Après, on leur demande pas forcément de rester l'exposition entière.
Des activités utiles, bien au-delà du simple divertissement. Marie Deneuve, la psychologue de l'établissement.
Pouvoir rappeler des souvenirs. Ah oui, ce tableau-là, je l'ai vu, c'était à telle exposition en telle année. Ça fait travailler la mémoire et ça permet de garder de meilleures fonctions cognitives.
Difficile de se lasser. Un tiers des expositions est renouvelé tous les 4 mois, imaginé par 3 historiens et spécialistes de l'art. En 4 ans d'existence, cette borne a été installée au total dans une trentaine de maisons de retraite.
Un reportage de Cyril Ardou à retrouver sur franceinter.fr.
Le journal de Kevin Dufraîche, la couleur du ciel.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Un peu de chaleur. Elle s'installe, Stéphanie Fromentin, au sud.
Et il a fait très chaud hier là-bas, avec des pointes à 36 degrés, un avant-goût des fortes chaleurs qui se profilent dans le sud-est. Aujourd'hui, il fera encore chaud au sud, 27 à 32 degrés, avec des pointes à 33, 36 en Occitanie et en région PACA. Les autres régions en profitent aussi, si le réveil est encore frais, avec 10 à 15 degrés dans l'intérieur des terres, 14 à 18 sur les littoraux de la Manche à l'Atlantique. Il fait déjà doux près de la Méditerranée, avec 17 à 21 degrés. Cet après-midi, les températures retrouvent des valeurs de saison. Sur la moitié nord, vous pourrez compter sur 23 à 27 degrés en général. C'est encore un petit peu frais en bord de Manche avec 20 à 22. Il fera 34 degrés à Calvi, 32 à Toulouse, 28 à Nice, mais 22 à Cambrai, 24 à Nantes, comme à Paris, et 26 degrés à Strasbourg.
Et cette chaleur, c'est à cause ou c'est grâce au retour du soleil?
Ah ben un peu grâce quand même. Si quelques nuages en grisaille encore le ciel, la journée s'annonce estivale. Au nord de la Loire et de la Seine, le ciel nuageux du matin lâchera parfois quelques averses. Il laissera cet après-midi un peu de place aux éclaircies de la Bretagne au Pays de la Loire, mais aussi vers Dunkerque. Sur les autres régions, le soleil s'impose, à peine dérangé par quelques gouttes de pluie, entre la Gironde et le Limousin, sous un ciel voilé, et par une évolution orageuse en fin de journée sur les Pyrénées ariégeoises et l'Auvergne.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
8h18, géopolitique.
Le 6-9.
Listen anywhere.
Sur France Inter.
Il a poussé la porte du studio. Il est à mes côtés. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Les Américains partent d'Afghanistan à la fin du mois. Qui pour les remplacer?
Eh bien, pour répondre, il faut faire un peu d'histoire et ouvrir une carte. L'histoire, nous, pour comprendre que l'insurrection des talibans n'a en soi rien de neuf. Je ne parle même pas du fait que ce mouvement national-religieux a déjà exercé le pouvoir entre 1996 et 2002. Churchill, en 1998, alors qu'il était jeune officier journaliste de 23 ans, a suivi l'exposition des Britanniques aux frontières de l'Afghanistan, dont les ennemis étaient à l'époque un parti national-religieux appelé Talib ul Hilm, qui prêchait le djihad contre l'Empire britannique. Les Britanniques ont été saignés à blanc et sèchement battus. Ils ont dû quitter piteusement les montagnes de l'Hindou Kush. Un siècle plus tard, Russes et Américains ont fait la même expérience de ce fameux tombeau des empires, c'est le surnom de l'Afghanistan. En Afghanistan donc, tout est un éternel recommencement.
Bon bah si c'est un éternel recommencement, on connaît la suite.
Bien sûr qu'on la connaît. L'Afghanistan est depuis toujours ce qu'on appelle une marche d'empire, c'est-à-dire un territoire qui sert de tampon entre des puissances qui, sans cela, trouveraient trop dangereux d'avoir des frontières en commun. C'est d'ailleurs lorsqu'un empire a voulu prévaloir en Afghanistan sur les autres, parce qu'il s'estimait plus puissant et plus riche, que les ennuis ont commencé pour lui. Il n'y a guère qu'Alexandre le Grand qui a qui est parvenu à s'y implanter durablement, et encore. C'est maintenant qu'il faut ouvrir une carte. Les États-Unis partis, il reste aux frontières l'Iran à l'ouest, l'Inde et le Pakistan au sud, la Chine à l'est et la Russie au nord, à part l'entremise de ses clients et alliés d'Asie centrale, Ouzbékistan et Tadjikistan. C'est si vrai qu'avant même d'avoir repris le pouvoir, s'ils le reprennent, les talibans ont été pris d'une frénésie de voyages diplomatiques. Ils ont été reçus à Moscou en janvier, à Téhéran et à Pékin en juillet. Au Pakistan, ils ont même une ambassade et deux consulats, c'est dire.
Donc, quelle est la conclusion de ces négociations, Anthony?
Bien, première chose, tout ce petit monde a une crainte en commun que le conflit intérieur afghan déborde sur leur territoire. Ni l'Iran, ni le Pakistan ne veulent de centaines de milliers de réfugiés. Il y en a déjà 30 000 par semaine en ce moment même. Par ailleurs, la Chine ne veut pas d'infiltration islamiste sur sa frontière ouest, c'est-à-dire le Xinjiang, là où vivent les Ouïghours. Donc l'urgence, c'est le contrôle du territoire afghan et l'anéantissement d'un État islamique qui tente de s'y implanter. Alors le calcul est vite fait. Les seuls qui ont sur place les moyens militaires et la même haine de l'État islamique sont les talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda. Par ailleurs, chacun de ces pays tente d'obtenir une protection pour ses alliés. L'Iran veut que les pogroms contre les Hazaras chiites cessent. Le Pakistan est obsédé par le fait que l'Inde avance sur place ses pions. Quant à la Russie, elle protège les Ouzbeks et les Tadjiks afghans. Bref, tout le monde a intérêt à s'entendre avec les talibans. Ça tombe bien, c'est exactement ce status quo hanté dont a toujours joui l'Afghanistan. Équilibrer les puissances régionales, jouer les unes contre les autres, faire payer tout le monde et ne contenter personne tout à fait. L'Afghanistan, une marge d'empire, je vous disais.
Géopolitique signée Anthony Bélanger. À demain, Anthony. Tout de suite sur Inter, le grand entretien de la matinale.
France Inter. Hélène Roussel. Le 6-9.
Bonjour Anthony.
Avec nos invités, nous revenons sur le premier rapport en 7 ans des experts climat de l'ONU, le GIEC, rapport rendu public hier et pas de miracle, on s'y attendait. Alerte rouge, le réchauffement s'accélère plus vite que prévu, il faut un réveil des États. Amis auditeurs, on attend vos commentaires, vos questions au 01 45 24 7000. À mes côtés en studio, Jean Jouzel, bonjour.
Bonjour Hélène Roussel.
Vous êtes paléoclimatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC et membre de l'Académie des sciences. Vous avez contribué à faire passer l'alerte aux générations suivantes, dont l'une de ses représentantes qui est avec nous en ligne, Emma Ziza. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Emma.
Vous êtes chercheuse hydrologue, spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques et